les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En mars 1959, après Jeanne Moreau, après Bourvil, Georges Guettari et Marcel Achard, c'était la comédienne Simone Renan qui se voyait confier les rênes de l'émission « Soyez les bienvenus » sur la chaîne parisienne. Disparue en 2011, la blonde, séduisante et élégante Simone Renan se sera partagée tout au long de sa longue carrière entre la scène et l'écran. Au cinéma, on se souviendra d'elle pour des films dirigés par Christian Jacques, Autant Lara, Grangier, Guitry et De Broca notamment, mais c'est surtout son incarnation de Dora dans Quai des Orfèvres de Clouzot qui est restée dans les mémoires. En 1959, Simone Renan était à l'affiche de l'adaptation des Liaisons dangereuses de Roger Vadim. On la retrouve, cette année-là, à la radio, présentant le programme qu'elle avait composé. Ses invités étaient le vétérinaire Fernand Méry, grand défenseur de la cause animale, le romancier Pierre Boulle, qui avait déjà écrit « Le pont de la rivière Kouaï, mais pas encore « La planète des singes », le peintre Yves Breyer et le réalisateur Denis de la Patellière, avec lequel Simone Renan avait tourné 2 ans plus tôt « Les œufs de l'autruche » aux côtés de Pierre Fresnay.
Soyez les bienvenus.
Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez.
Simone Renan, soyez la bienvenue.
Merci.
Je suis heureux de vous accueillir et de vous retrouver dans ce studio.
Ça c'est vrai, c'est de nous retrouver. Il y a longtemps que nous n'avons pas fait de choses ensemble d'ailleurs.
Oh, longtemps, ça fait un an.
Oui, mais moi je trouve que c'est long.
C'est gentil à vous. En tout cas, vous n'êtes plus ici comme interprète, mais comme animateur, si je peux dire.
Oui, j'ai un drôle de trac d'ailleurs.
Vous avez le trac?
Oui.
Oh, ben, comme tous les grands acteurs, naturellement.
Bon.
Vous êtes absolument libre. Vous savez que la radiodiffusion télévision française met à votre disposition un studio, le micro naturellement, les techniciens, les tourne-disques. Alors vous êtes chez vous, avec les amis que vous voulez accueillir. Enfin, pendant une heure, vous êtes directrice de France 2.
Oh, mon Dieu.
Vous remplacez M. Vincent Bréchignac.
Oui, oui. C'est très bien, mais vous savez, ça va me donner un orgueil fou, peut-être, ça.
Non, je ne crois pas.
Non, je ne le crois pas non plus. Eh bien, écoutez, mon cher ami, je ne sais pas. Moi, je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer pendant une heure de distraire les gens qui auront la gentillesse de nous écouter et qu'ils trouvent cette heure courte.
Vous aimez la radio?
J'adore la radio, bien sûr.
Et on fait bien ce qu'on aime.
Alors, je vais essayer. Eh bien, puisqu'on fait bien ce qu'on aime et que j'aime beaucoup écouter les chansons... Si vous voulez bien, nous allons en écouter une ensemble pour faire connaissance. Par exemple, une chanson tendre de Guy Béard.
On s'écrivait de tendres choses, des mots pervers mais innocents, et rouges comme notre sang. De les redire ici, je n'ose. J'ai tenté de brûler ces pages, rien à faire et je les relis, tes arrondis, les yeux remplis de ces courbes à ton image. On s'écrivait poste restante au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans logis que sont les amours débutantes. Quand tu me griffais de ta plume, je restais tout pâle, interdit, sous ta griffe encore aujourd'hui. Ma fièvre ancienne se rallume, depuis lors sous d'autres couleurs. J'ai battu, je me suis fait battre, ta guerre seule est opiniâtre. Tu m'avais fait battre le cœur, on s'écrivait poste restante au rendez-vous des apprentis. Au rendez-vous des sans-logis, que sont les amours débutants. Un jour ma lettre me revint, tu n'allais plus jusqu'à la poste, tu avais déserté le poste, et mes lettres partaient en vain. et revenais me prendre ailleurs, ici, là, je changeais d'adresse et m'atteignais dans ma détresse. Tous ces retours à l'envoyeur, on s'écrivait poste restante au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis. Que sont les amours débutantes? Que monte une flamme nouvelle sur cette cendre désormais? Si tu vois combien je t'aimais, entre tes lignes se révèle ce qu'hier je n'ai pas su lire. Il faut du temps pour faire un cœur. N'as-tu pas détruit par rancœur ce qu'hier je n'ai pas su dire? On s'écrivait poste restante au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis. Que sont les amours débutantes? Que sont les amours débutantes?
Elle est très jolie, cette chanson. Mais je ne voudrais pas que vous puissiez croire que j'ai l'esprit mélancolique. Non, pas du tout. Aussi, tout à l'heure, on m'a dit que je pouvais amener ici qui je voulais. Mais j'ai une autre idée, figurez-vous. J'ai envie, au contraire, de vous emmener tous, là, tous ceux qui m'écoutaient. J'ai envie de vous emmener tous avec moi au théâtre, entendre quatre amis que j'aime beaucoup et que je suis sûre que vous aimez aussi beaucoup, les frères Jacques.
Plom,
Eh bien, je crois qu'il n'y a pas à hésiter, il faut être chat de charcuterie.
Mais c'est plus sage.
N'est-ce pas? Je suis tellement heureuse de pouvoir bavarder un petit peu avec vous, cher docteur Méry. Vous qui aimez tous les animaux, mais en particulier les chats, je crois, vous leur avez consacré de nombreux livres très intéressants. Est-ce que vraiment c'est vrai ce qu'ils disent dans cette chanson? Est-ce qu'ils sont aussi cruels que ça?
Non, mais il y a un tas de malentendus comme ça, ça n'est pas vrai du tout. Les chats ne mangent pas. D'abord, les rats, ils ne sont pas fous, les chats. D'abord, un rat, c'est très indigeste.
Oui.
Ils s'amusent à tuer les rats pour s'entraîner probablement à tuer les souris. Et ils mangent effectivement les souris.
Oui.
Mais comme le dit la chanson très justement, quand les chats sont bien nourris, ils fichent la paix aux souris. En réalité, c'est parce que les chats ont beaucoup souffert. On dit toujours des chats, par exemple, qui sont gourmands et qui sont voleurs. Mais ce n'est pas vrai
du tout.
C'est pas vrai. Seulement pendant des générations et des générations, des siècles et des siècles, les chats ont crevé littéralement de faim. Alors, on ne peut pas trop leur en vouloir aujourd'hui de chercher l'indispensable quand ils ont toute leur vie manqué du superflu.
Naturellement. Ils ont gardé dans leur subconscient une espèce d'angoisse, la peur de manquer. Mais enfin, ça, ils ne sont pas les seuls. Il y a des tas d'humains qui sont comme
beaucoup,
ça.
Mais oui. C'est très curieux. Quand je bavarde avec vous, j'ai l'impression de parler à un chat, car vous faites très chat.
Et oui.
Vous faites très chat siamois.
Oh, ah,
oui, très chat siamois.
Ah, mon Dieu. Alors, ça va beaucoup impressionner le mien.
Vous êtes blonde comme les siamois. Vous avez des yeux bleus comme les siamois.
Oui, enfin, un peu plus.
Vous n'avez pas la griffe facile.
Non.
Comme
non.
Les siamois.
Non, pas du tout. Non. Je suis un petit peu plus civilisée. Je les trouve très civilisés et très intelligents, d'ailleurs.
Les siamois ou les chats en général?
Eh bien, les chats en général. Les siamois, j'ai eu juste une toute petite chatte siamoise qui était ravissante et que je trouve que ça s'apparente un peu au chien. Parce qu'elle me suivait un peu partout. Mais je dois dire que le personnage qui joue un rôle important dans ma vie maintenant et qui s'appelle Monsieur Poussy et qui est un chat de gouttière. Et...
Mais ça n'existe pas, le chat de gouttière.
Enfin,
des chats européens.
Ah, les chats européens.
Il n'y a plus de gouttière maintenant avec les gratte-ciel.
Oui, c'est vrai. Oh, mais vous savez quoi qu'il vit un petit peu. Moi, j'habite au 6e étage, il se promène un petit peu quand même là-dessus. Ce qui d'ailleurs, moi qui ai facilement le vertige, me met dans un état épouvantable. Mais je dois dire que... Il y a 11 ans que je l'ai avec moi, et il me suit un petit peu maintenant aussi, dans toutes les pièces de la maison. D'abord, vous savez, les chats sont très curieux, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Et quand on ouvre la porte, par exemple, et qu'il est dans une autre pièce, eh bien, il se jette sur la petite targette pour l'ouvrir. Il veut absolument entrer pour voir ce qu'il se passe et prendre part à la conversation et voir s'il connaît les gens, s'il les tolère.
S'il les apporte.
Oui, oui, c'est ça.
Ils sont très curieux toujours des boîtes, des paquets, n'est-ce pas ça?
C'est
en cela qu'ils sont très femmes, n'est-ce pas?
Ils adorent ça. Je crois que c'est à peu près impossible de faire une valise avec un chat.
C'est pas possible. On ne peut pas, la veille de Noël, rentrer chez soi avec des paquets sans être assailli par un chat.
Oui.
Un chat.
Ah, c'est
vous parliez tout à l'heure des chats de gouttière. Il vient tout d'un coup à l'idée, cette réflexion qui est un peu peut-être saugrenue, qui ne veut pas être d'esprit, rassurez-vous. On parle toujours des rats de cave, on ne parle jamais des chats de cave. Or, il y a énormément de chats de cave, et je crois qu'il y a beaucoup plus de chats de cave qu'il n'y a de chats de gouttière. Parce que, surtout à Paris, les chats qui sont poursuivis de tous les côtés, vous le savez, pour chasser, se réfugient dans les caves. Et il y a énormément de chats de cave à Paris qui, probablement, si j'en croyais la chanson tout à l'heure, se nourriraient de gras de cave.
Les pauvres, ils n'auraient pas beaucoup de chance. Mais, cher docteur Méry, je vais profiter de ce que vous êtes là.
Vous savez ce que c'est qu'un rat de cave? J'ouvre cette parenthèse, je l'enferme aussitôt,
oui,
n'est-ce pas?
Non.
C'est un employé de contribution.
Ah!
Vous aurez beaucoup d'excuses.
Non, c'est affreux, il ne faut pas dire ça. Dites-moi, je veux vous poser une toute petite question. Vous savez qu'à Paris, malheureusement, presque tous les chats que nous aimons beaucoup sont des chats sédentaires. Alors, je vais vous poser une petite question pratique. Est-ce que tout de même, on peut les nourrir avec de la viande crue?
Mais il faut les nourrir avec la viande crue.
Ah,
mais voyons,
parce qu'il y a plusieurs théories.
Le chat est un carnassier ou un carnivore, il ne peut pas manger autre chose, n'est-ce pas?
Ah,
on
ne
peut pas lui donner des asperges en boîte, donnez-lui au pis-allé des filets de hareng, mais il faut lui donner ou des poissons, ou du poisson, ou de la viande crue.
Et même de la viande crue, du
mais oui, vous savez bien que le chat est un petit tigre, d'ailleurs, vous avez vu, quand on donne à manger à un chat, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un morceau de viande qui puisse dilacérer, déchirer à belles dents, et exactement comme fait un félin, un grand félin, un fauve. Car
oui,
au fond,
oui.
c'est un petit fauve sauvage.
C'est d'ailleurs ce qui lui donne cette grâce ravissante. Moi, je trouve que quand un chat marche, c'est vraiment très, très beau à les voir. Une espèce de, je ne sais pas, quelque chose de, je dirais, de presque lascif dans leur démarche, qui est très intéressant.
Oui, c'est un point de vue,
Ça, je dois dire que j'aime beaucoup ça.
Eh bien, moi, je vois le point de vue esthétique, vous voyez le point de vue plus intérieur. Si j'en ai...
Eh bien, cher docteur, je vous remercie mille fois. Et mon chat, M. Poussy, qui vous aimait déjà beaucoup, depuis qu'il sait que grâce à vous, il aura droit à du cœur et à du mou.
Non, malheureuse, c'est la seule chose que je ne vous ai pas dite. Jamais d'abat pour un chat.
Ah,
ni foie, ni rate, ni mou. De la viande qui soit de la viande vraie.
Ah, alors là, eh ben on va refaire son éducation.
En tout cas, vous lui direz bien mes hommages admiratifs.
Vous êtes trop gentil, docteur, et merci encore.
Je vous en prie. Hein. We'll be right back.
Je pense, cher monsieur Pierre Boulle, que cela vous rappelle quelque chose, non?
Vous ne m'en parlez pas.
Vous devez en être saturé, non?
Un petit peu, oui.
Oui, on l'a beaucoup trop entendu et c'est dommage parce que c'est vraiment un air très, très entraînant et très bon.
J'ai passé toutes les vacances à chercher des endroits où on n'entendait pas.
Oui, ça, je veux bien le croire, ça ne m'étonne pas. J'étais d'abord très contente de bavarder avec vous parce que ça me fait plaisir, je n'avais pas la joie de vous connaître avant. Et puis, figurez-vous que, avant de lire Le Pont sur la rivière Kouai, j'avais lu il y a quelques années un livre de vous que j'avais trouvé très intéressant, qui s'appelait La Face, dans lequel votre personnage principal était un... C'était un juge d'instruction ?
C'était un procureur.
Un procureur, c'est ça. Qui assistait, tout à fait par hasard, à un meurtre et qui, au moment du procès, tellement pris, en quelque sorte, par son sujet, alors qu'il savait très bien que l'homme était innocent, c'est ça, n'est-ce pas ?
C'est ça. En fait, il s'agissait d'un accident.
Il s'agissait d'un accident et il finissait par... Il était tellement pris par son sujet, il faisait une plaidoirie tellement extraordinaire qu'il finissait par condamner cet homme qu'il savait parfaitement innocent et qu'il allait jusqu'...
Il finissait très exactement par demander sa tête.
Sa tête, n'est-ce pas ?
Ce qui est le plus curieux, enfin, c'est qu'il était presque de bonne foi. Il était arrivé, à force de travailler sur le dossier, à se persuader lui-même que l'homme était coupable, alors qu'il avait vu de ses propres yeux qu'il ne s'agissait que d'un accident.
Oui, alors ça, moi, je trouve d'abord que c'était un caractère formidablement étonnant, et même je trouve que c'est un caractère qu'on pourrait voir au théâtre. Enfin, c'est presque une pièce, vous comprenez ?
Eh bien, je pense que La Face va être montée au théâtre en Amérique cette année. Elle a été montée à la télévision dans la nuit du 1er janvier, et je crois que ça a eu un très gros succès à la télévision. Ça doit être monté au théâtre cette année.
Ça va être très intéressant. J'espère que nous aurons la joie de la voir un jour à Paris.
J'espère aussi. Oui. Ce n'est pas moi qui ai fait l'adaptation, mais enfin, je l'ai lue et je la trouve excellente.
Ah, tant mieux, ça c'est très intéressant. Et nous avons ouvert une petite parenthèse là. Et je voulais vous dire que quand j'avais lu Le Pont sur la rivière Kouai avant de voir le film, je trouvais que votre personnage de Nicholson, je ne sais pas pourquoi, me faisait penser un petit peu à votre procureur. Cet homme qui subitement avait absolument des œillères, qui ne pensait qu'une chose, c'était à construire ce pont.
Eh bien, il y a probablement, effectivement,
un parallèle.
Rapport entre les deux. Pas que ce ne soit pas le même cas, mais enfin,
non.
Nicholson, si vous voulez, a des œillères à cause de l'œuvre entreprise, à cause du pont qu'il veut construire. Et mon personnage du procureur a également des œillères pour sauver son honneur, parce qu'il ne veut pas avouer qu'il a été un lâche.
Oui, l'un c'est pour sauver son honneur et l'autre c'est peut-être pour ne pas disparaître complètement. Il n'a jamais rien été au fond dans la vie et puis s'il fait ce pont, même si ce pont ne tient que 50 ou 100 ans, puisque je crois que la rivière Kouai n'était pas très sûre, il aura tout de même fait quelque chose, il restera quelque chose
c'est
de lui.
Ça.
D'ailleurs dans le film il y avait une plaque où
dans
il y avait écrit son nom.
L'idée de la plaque n'est pas de moi.
L'idée de la plaque n'est pas de vous, je me souviens.
Enfin, elle était très bonne quand même.
Je ne l'avais pas vu dans le roman. Et voyez-vous, ces deux choses-là m'avaient amené à penser que c'était tout de même assez grave parce que ces deux personnages, subitement, n'étaient plus des êtres humains. Et ils devenaient en quelque sorte des sortes de robots. Ils ne pensaient plus qu'à une chose, c'était à faire une œuvre. Mais le côté tout de même intéressant dans un homme, c'est-à-dire le cœur, l'amour, la sensibilité, tout ça, ils ne voulaient plus le voir.
Je crois que vous avez raison. Chacun d'eux a une idée fixe.
N'est-ce pas ?
Il n'y a pas de doute. Et cette idée fixe les empêche de se rendre compte de ce qui se passe autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils deviennent absolument, en quelque sorte, des mécaniques, c'est exact. Ils sont un peu inhumains, je suis d'accord.
Oui, n'est-ce pas, les deux rapprochements.
Ou bien très humains, je ne sais pas.
Oui, moi non plus, je ne sais pas. Et j'avoue que c'est en effet très difficile de répondre sur cette question. Mais c'est une chose qui m'avait beaucoup, beaucoup intéressée. J'avais beaucoup aimé. Dites-moi, quel effet ça fait quand on a écrit un livre ? Parce que, d'abord, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître curieuse. Est-ce que vous avez une imagination visuelle quand vous écrivez ?
Pas au début. Alors ça, c'est difficile à expliquer aussi. Non, en général, je pars d'une idée abstraite.
Ah bon ?
Parce que l'imagination visuelle vient quelquefois peu à peu.
Alors, donc, quand on a quand même une imagination visuelle, on se représente les choses. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'imagination visuelle. Et quand je lis un livre, je vois les personnages s'agiter, je vois les endroits. Enfin, je les vois exactement un peu comme si j'étais au cinéma. Alors, quel effet ça vous a fait, vous, quand vous avez vu cette chose que vous aviez écrite, qui vous appartenait en propre, sur l'écran projeté ?
Quand je l'ai vu sur l'écran, J'ai trouvé très bien. J'ai trouvé que c'était une très belle réalisation.
Ah oui, c'était une très belle.
Ça aurait été difficile si je n'avais pas trouvé très bien. J'ai trouvé.
C'était vraiment un grand film.
Je n'ai pas été déçu, certainement. Par moments, j'avais peur. Je veux dire.
Oui.
Mais jusqu'à, enfin, le début, j'étais très bien. L'arrivée des prisonniers, puis à certains moments, il me semblait que ça n'était plus du tout ça. J'étais tremblant. J'avais peur.
Oui, ça n'était plus exactement vos enfants.
C'est ça. Certains passages avec lesquels je n'étais pas d'accord, j'étais presque à m'arracher les cheveux, mais ça ne durait pas, malheureusement.
Heureusement. Oui, heureusement. Et même cette chose dont on a beaucoup parlé, qui est la fin du film, qui n'est pas exactement, qui n'est pas du tout la même d'ailleurs dans le roman que dans le film. Au fond, dans le roman, vous en avez parlé parce que vers la moitié du roman, il y a une conversation entre vos personnages où vous dites qu'il faudrait le faire sauter.
Ah, ça, bien entendu.
Alors donc, par conséquent, cette fin était aussi de vous.
Malgré tout, non.
Ah, vous voyez, c'est amusant d'essayer de comprendre.
Comme fin, moi, dans la fin, le pont restait intact et le colonel avait sauvé son pont jusqu'au bout.
Ah, jusqu'au bout, oui.
Jusqu'au bout. Alors, dans le, j'ai bien décrit le pont qui sautait dans le courant du lit, mais ça se passait dans l'imagination des personnages.
Oui, dans l'imagination, oui.
Ce qu'on aurait peut-être pu réaliser au cinéma, à mon avis, mais enfin, je ne suis pas assez...
Oui, bien sûr, mais j'ai l'impression que tout de même, au point de vue spectaculaire, ça aurait été moins bon, parce que c'était un morceau de bravoure, qui mis en scène d'une façon extraordinaire. Et
oui, je suis d'accord.
C'était vraiment...
Très belle image. Enfin, c'est la seule... Si je peux me permettre une petite critique, je vous dis, je trouve le film excellent dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de chance. Si je peux me permettre une petite critique, c'est la fin, avec laquelle je ne suis toujours pas d'accord.
Cher monsieur Pierre Boulle, vous savez, tout à l'heure, nous parlions de théâtre, et je vous disais, comme ce serait intéressant qu'il y ait une pièce de vous à Paris, est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez envie d'écrire pour le théâtre?
Oui, ça me plairait beaucoup. J'ai même écrit une pièce de théâtre.
Ah!
D'après mon premier livre, William Conrad, une pièce de théâtre qui doit être montée par Jean Mercure.
Très bien, c'est un excellent metteur en scène, ce serait très intéressant.
Je pense qu'il la montera, je ne sais pas encore quand, parce qu'il y a une difficulté, il y a un rôle qui est assez difficile à jouer, il faut un acteur étranger, il ne l'a pas encore trouvé, mais enfin, j'espère que ça se réalisera bien.
Oui, ça, je suis sûre que si c'est Jean Mercure qui est un garçon très tenace, nous aurons pour notre plus grand plaisir la joie de l'entendre d'ici quelque temps. Mais ce qu'il faut, c'est en écrire d'autres, parce que moi je trouve que quand on a un sens de la psychologie aussi intéressant que le vôtre, quand on a une façon de décrire les personnages comme vous les décrivez dans vos romans, pour le théâtre, c'est tellement important. Vous comprenez, évidemment, le cinéma...
Ça me plairait beaucoup, d'ailleurs, d'écrire pour le théâtre. Je ne dis pas non.
Eh bien, je ne saurais trop vous y engager. J'espère un jour avoir la joie de voir une pièce de vous et qui sait, aujourd'hui, on peut toujours faire des souhaits, avoir la joie d'en interpréter une.
Ça, je voudrais bien.
Merci.
L'assassin du dimanche n'est pas bien dangereux. Il met sa chemise blanche pour tuer le temps comme il peut. Quand il se paye des rengaines sur une machine à sous, c'est un peu de sa semaine qui fout le camp par petits bouts. L'assassin du dimanche s'en va au tir forain, casser des pipes blanches, et ça lui fait du bien. Ou sur une pellicule se fait tirer pour la vie, son portrait bien ridicule pour montrer à ses amis. L'assassin du dimanche se fait descendre un jour par une flèche blanche que lui tire l'amour. Il fait valser sous les branches du côté de Robinson une fille en robe blanche au son d'un accordéon. L'assassin du dimanche ne fait plus que rêver à tous les beaux dimanches qu'il ne veut plus tuer. La assassin du dimanche devient un amoureux, amoureux des dimanches, des beaux dimanches à deux.
Vous avez naturellement reconnu la voix d'Yves Montand qui chantait cette charmante chanson de Francis Lemarque. Jusqu'ici, nous n'avons écouté que des chansons. Mais il y a une autre musique que j'aime profondément, parce que ça, j'en ai besoin. J'en ai besoin comme on a besoin d'air pur. Et il m'arrive très souvent, quand je suis fatiguée, pour me remettre, d'écouter un morceau de musique classique. Il y en a que j'aime particulièrement. Et je serais heureuse de vous faire partager cet amour que j'ai. Je voudrais que nous écoutions ensemble le premier mouvement du quatuor en si bémol majeur de l'émouvant Mozart.
Thank you.
Comme c'est agréable d'écouter une jolie musique. Cher Denis de la Patellière, je suis bien contente de vous rencontrer. La dernière fois que nous nous sommes vus vraiment, c'était dans un studio de cinéma où j'avais la joie de tourner avec vous et sous votre direction, Les œufs de l'autruche avec Pierre Fresnay.
Oui, ça fait déjà quelque temps.
Ça fait déjà quelque temps, oui, c'est trop long pour moi. Dites-moi, cher Pat, puisqu'on a l'habitude de vous appeler comme ça quand on tourne, il y a une chose que je voulais vous dire, enfin tout de même qui paraît un petit peu amusante quand on voit toute votre carrière maintenant qui se dessine d'une façon si brillante. Votre premier film, c'était Les Aristocrates, je crois.
Oui.
Ensuite, vous avez...
Le Salaire du péché.
Le Salaire du péché, vous avez fait Les œufs de l'autruche.
Oui, Retour de manivelle.
Retour de manivelle. Et puis, vous venez de faire Les grandes familles. Et quand on regarde ça, tout de même, on voit un espèce de fil conducteur. J'ai l'impression que vous vous intéressez beaucoup aux familles. Est-ce que j'ai raison?
Oui. Vous avez raison pour tous les films, sauf pour Retour de manivelle, qui ne me paraît pas particulièrement une histoire familiale. Mais pour les autres, c'est vrai. Et c'est curieux d'ailleurs, parce que ça n'est qu'à posteriori que je m'en suis aperçu. Ça n'est pas du tout par principe que j'ai choisi des histoires de famille, mais quelqu'un me l'a dit un jour, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit au fond c'est toujours des histoires de famille que vous faites, c'est vrai.
Il y a tellement de choses dans les familles déjà, n'est-ce pas? Il y a les grandes, il y a les moins grandes, il y a tout de même des tas de caractères très intéressants à développer.
Oui, puis les gens se situent bien les uns par rapport aux autres.
C'est très juste.
C'est ça qui m'intéresse, et une famille c'est toujours un milieu.
Oui, c'est très juste. D'ailleurs, ça éclate dans Les œufs de l'autruche d'une façon très, très amusante et un peu heurtée. Et dans Les grandes familles, ça éclate d'une façon tout à fait extraordinaire. On vit chez ces gens-là. On a l'impression qu'on les a presque toujours connus. On ne les aime pas tous, mais enfin, tous vous intéressent. Et maintenant, quel est votre prochain sujet?
C'est encore une histoire de famille.
Ah, vous voyez que j'avais touché juste. Et qu'est-ce que c'est que cette famille-là?
Ah, cette fois, ce n'est pas une grande famille. Enfin, du moins, ça n'est plus du tout la plaine Monceau. Cette fois, ce serait plutôt Aubervilliers, ou enfin Belleville.
Ah, c'est intéressant.
En fait, c'est très exactement rue des Prairies, tirée du roman de ce nom, de René Lefebvre.
C'est une rue qui existe?
C'est une rue qui existe.
Ah bon?
Rue des Prairies, oui, oui. Entre le Père Lachaise et un autre cimetière, je ne sais plus
lequel. Ah, je vois où oui, c'est.
C'est du côté du Père Lachaise.
Et ce film, mais...
Ce ne sera pas un film macabre, c'est pas...
Non, ben, ça n'est pas
ce
du tout parce que...
Ce rapprochement du cimetière est tout à fait fortuit.
Naturellement. Mais je veux dire, ça met en scène quoi
C'est un drame d'amour, mais d'amour paternel.
C'est intéressant, c'est un sujet qu'on développe rarement en général.
Oui, surtout pris sous cet angle.
Très bien.
C'est assez curieux.
Et vous allez avoir qui comme interprète principal?
Jean Gabin.
Oh.
Pour changer.
Non, ça c'est merveilleux. Il est extraordinaire dans Choudelaire.
Merveilleux. Je trouve que c'est vraiment un des plus grands acteurs actuels.
Oui, il a fait un personnage tout à fait intéressant, très bouleversant par certains côtés. Il est sensationnel. Ça va être amusant pour vous. Moi, voyez-vous, j'aurais adoré être metteur en scène. Ça va vous faire rire, peut-être.
Pas du tout.
Mais
du tout.
J'imagine que c'est très, très intéressant de faire travailler des acteurs, surtout des acteurs aussi intéressants que Gabin, qui déjà ont une personnalité qui, je suppose, vous apporte déjà quelque chose, n'est-ce pas?
C'est très intéressant de faire travailler des acteurs, les vrais.
Oh, comme c'est agréable d'entendre ça. Vous êtes un metteur en scène exceptionnel.
Je sais pas, j'aime mes professionnels.
Ah, ça, vous avez bien raison. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. D'ailleurs, je le pense très profondément. Non, d'ailleurs, dans les grandes familles, on est justement pris par ça, par le rythme du film. Et je crois que le rythme du film vient justement de ce que vous avez de très, très bons acteurs dans tous les rôles. Par exemple, Bernard Blier, qui a un rôle qui n'est pas important, finit par sa présence à faire que ce rôle est très important.
Oui. À chaque seconde de présence sur l'écran, ça compte.
Annie Ducot, Françoise Christophe, qui n'ont que des rôles très, très minces, tout à fait indignes de leur talent. Ce sont des femmes, elles existent, elles sont vraies. Et à ce propos, je vais vous poser une petite question un peu. Pourquoi est-ce qu'on écrit aussi peu de rôles de femmes? Enfin, vous savez, ce que j'appelle des rôles de femmes, c'est-à-dire des vraies femmes, pas des petites filles de 18 ans. On en écrit de moins en moins au cinéma en ce moment.
Je comprends bien que ça vous ennuie beaucoup.
Oui, enfin, m'ennuyer, ça m'inquiète plus exactement.
Oui, je comprends ça. Mais je crois qu'il est plus difficile de trouver, à part pour les jeunes premières, de trouver des grands personnages de femmes avec beaucoup de relief. Et je crois que c'est dû à notre civilisation et que ça va commencer à changer. C'est-à-dire que dans la mesure où les femmes prennent plus d'importance individuelle dans la société, il va se créer des personnages de femmes chefs d'entreprise, de femmes chefs de clan.
Oui.
Et ça va devenir, je crois,
plus intéressant.
Des personnages vont avoir plus de relief.
Oui, ils vont avoir plus de relief, parce qu'autrement, c'est simplement ou les mères éplorées ou les amoureuses, c'est agréable. Mais enfin, ça ne laisse jamais beaucoup de place à une...
Mais on va peut-être cesser de définir toujours la femme par rapport à l'homme.
Ce serait bien. Mais je me demande, est-ce qu'on n'est pas un peu misogyne en France en ce moment?
Oh, je ne sais pas. pas en ce qui me concerne.
Ah, je suis heureuse de vous l'entendre dire. Mais revenons au cinéma. Il me souvient un jour sur le plateau, je vous avais entendu parler de la joie que vous aviez à travailler en équipe et combien vous trouviez qu'un film, avant tout, c'était l'œuvre d'une équipe.
Oui, je crois que, sauf de très rares exceptions, René Clair ou Chaplin, par exemple, il y en a d'autres aussi, mais enfin, dans l'ensemble, je pense qu'un film est une œuvre d'équipe et non pas une œuvre individuelle et que quand on dit, en mon cas par exemple, quand on dit pour Les Grandes Familles, un film de Denis de la Patellière, je trouve que c'est un côté un peu choquant. D'abord parce que Les Grandes Familles, c'est d'abord tout de même une œuvre de Druon. C'est quand même M. Maurice Druon qui a inventé un jour
ces personnages,
cette famille extraordinaire. Et rien ne serait arrivé si Druon n'avait pas un jour trouvé ça dans sa tête.
Oui, cette famille Choudlaire qu'il a créée.
Donc Les Grandes Familles, c'est quand même d'abord la grande famille de Maurice Druon. C'est quand même assez évident. C'est aussi... Il n'y a à peine besoin de le dire, un film de Michel Audiard. Le dialogue a là, dans ce film une telle importance, et on s'en rend compte dans les salles.
Ah oui, il est très percutant, il est excellent.
Il est évident que c'est aussi un film de Michel Audiard.
Oui.
Mais quand Gabin donne au personnage de Choudelaire, pour ne pas parler d'autres acteurs du film, quand Gabin donne au personnage de Choudelaire un style aussi définitif, je considère qu'il fait aussi, par ce qu'il amène à l'œuvre entière, qu'il fait aussi œuvre d'auteur. En fait.
Mais oui, mais ça, vous avez tout à fait raison. Les acteurs, quand ils amènent beaucoup de choses, créent un personnage.
Bien
et
sûr.
À ce moment-là, ils sont auteurs.
Ils font l'œuvre d'auteur, au point d'ailleurs que Druon, parlant du personnage de Choudelaire, m'a dit « Maintenant, je ne peux plus le voir autrement que sous les traits de Gabin », ce qui est tout à fait extraordinaire, parce qu'avant, je le voyais d'une façon tout à fait différente.
Oui, mais ça ne me donne pas du tout, d'ailleurs.
Mais il y a un autre personnage qu'on oublie toujours, mais qui, dans ce cas, par exemple, est aussi l'auteur du film, qui est Jean-Paul Guibert, le producteur, qui, là, pour une fois, enfin, pas en ce qui le concerne, pour une fois, par rapport à beaucoup de producteurs, a fait son métier de producteur.
Oui.
C'est-à-dire que c'est lui d'abord qui a eu l'idée de faire ce film. C'est lui qui a choisi, en plus, dans les 15 histoires possibles des grandes familles, qui a choisi de raconter l'histoire de Choudelaire dans le milieu de la bourse.
Oui. Ah, ça, c'est très intéressant. Je ne savais pas que c'était le producteur qui avait eu cette idée.
Oui, mais tout le long de la réalisation, même, il a suivi le film de telle façon qu'il est aussi auteur des films.
Mais ça, c'est très bien. Il faudrait souhaiter que beaucoup de producteurs fassent comme lui, parce que c'est tout de même, d'ailleurs, pour vous, c'est un apport extraordinaire.
J'aime beaucoup avoir un vrai producteur.
Mais oui, de se sentir épaulé par quelqu'un, ne pas être obligé d'imposer à quelqu'un, quand on est sur le plateau, comme vous l'êtes, vous avez déjà tellement de travail qu'il faut encore, après 7h30, discuter pour les choses.
Non, il faut faire ça ensemble, et je crois que ça ne nuit pas du tout, quoi qu'on en dise.
Non, moi, je suis même persuadée du contraire. En tout cas, le résultat des Grandes Familles est là. C'est un des meilleurs films français qui fait, je crois, beaucoup d'argent. Et c'est très, très réconfortant de le voir, de l'entendre. Et on est heureux que ça marche aussi bien.
Merci.
Eh bien, pour nous distraire un petit peu maintenant, parlons de choses moins graves. Et est-ce que vous aimez une femme, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Colette Renard?
Je crois que c'est à peine besoin de le dire.
Vous l'aimez, je suis contente. Alors, est-ce que vous voulez que nous en écoutions ensemble?
Mais avec joie.
Bon.
Ça, c'est de la musique, de la vraie musique. Alors là, pardon, moi je dis chapeau, ça c'est champion. Écoute-moi cet air-là, hein, qu'est-ce que tu me dis de ça? C'est pas du bidon, ni de la guimauve, minute papillon. Ça c'est de la musique, de la vraie musique. Et là-dedans, tu sais, fais-moi confiance, moi je m'y connais. Sans être musicien, tu sens quand c'est pas bien. Écoute-moi ce final original, t'as qu'à soin de soin. Ça c'est de la musique, de la vraie musique. C'est pas du Rimsky, du Korsakov ou je ne sais qui. Ou un truc coton qui te file un coup de bourdon. Une envie de bailler et la migraine par-dessus le marché. Non, 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 ça c'est de la musique, de la vraie musique. Moi quand j'entends ça, j'en prends un coup, ça se commande pas. Tais-toi, ne dis rien, et puis écoute bien. C'est le même final aussi génial, t'as qu'à te soin de soin. Ça c'est de la musique, de la vraie musique. Oh évidemment, je sais bien, c'est un peu compliqué. Mais enfin, je vais essayer de t'expliquer. Tu vas voir, ça va être facile. C'est comme toi, et puis c'est comme moi, c'est de la haute fidélité. Moi, ça me donne envie de danser et de chanter. Allez, allez, allons-y, on va recommencer. Ça, c'est de la musique, de la vraie musique. Alors là, pardon, moi je dis chapeau, ça c'est champion. Écoute-moi cet air-là, hein, qu'est-ce que tu me dis de ça? C'est pas du bidon, ni de la guimauve, ni de papillon. Ça, c'est de la musique, de la vraie musique. C'est un truc français, on est des lions et je m'y connais. Les Américains, et tiens, même les Cubains. À côté c'est rien, ça fait de l'effet parce que c'est typique. Seulement tu permets, elle t'a gada de soin de soin.
Avec Colette Renard, on est au Music Hall et on a tout naturellement envie d'entendre Brassens.
En notre tour de Babel, laquelle est la plus belle, la plus aimable parmi les femmes de nos amis? Laquelle est notre vraie nounou, la petite sœur des pauvres de nous, dans le guignon toujours présente? Quelle est cette fée bienfaisante? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Comme nous dansons devant le buffet, bien souvent on a toujours peu ou prou les bas criblés de trous qui raccommodent ses malheurs de fils de toutes les couleurs qui brodent divines cousettes des arcs-en-ciel à nos chaussettes. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Quand on nous prend la main sacrée, bon Dieu, dans un sac, et qu'on nous envoie planter des choux à la santé, quelle est celle qui, prenant modèle sur les vertus des chiens fidèles, reste à l'arrêt devant la porte en attendant qu'on en ressorte? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Et quand l'un d'entre nous meurt, qu'on nous met en demeure de débarrasser l'autel de ses restes mortels, quelle est celle qui remue tout Paris pour qu'on lui fasse au plus bas prix des funérailles gigantesques, pas nationales non mais presque? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Et quand vient le mois de mai, le joli temps des mai, que sans écho dans les cours nous hurlons à l'amour. Quelle est celle qui nous plaint beaucoup, quelle est celle qui nous saute au cou, qui nous dispense sa tendresse, toutes ses économies de caresses. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Ne jetons pas les morceaux de nos cœurs au pourceau. Perdons pas notre latin au profit des pantins. Chantons pas la langue des dieux pour les balours, les fesses Mathieu, les patoquets ni les bobèches, les foutriquets ni les pimbèches, ni pour la femme de Bertrand, pour la femme de Gontran, pour la femme de Pamphile, ni pour la femme de Firmin, pour la femme de Germain, pour celle de Benjamin, ni pour la femme d'Honoré, la femme de Désiré, la femme de Théophile, encore moins pour la femme de Nestor, mais pour la femme d'Hector.
Chère Yves Breyer, je suis bien contente d'avoir l'occasion de bavarder un peu avec vous, car il y a bien longtemps que ça ne nous est arrivé. C'est vrai, il y a des années, nous nous rencontrions assez souvent chez des amis communs, mais maintenant, moins.
Nous nous sommes rencontrés chez Galtier-Boissière il n'y a pas très longtemps. C'était très sympathique.
En effet. Dites-moi, vous savez, ça m'amusait beaucoup de parler de tas de choses avec vous, d'abord parce que vous êtes un peintre que j'aime beaucoup, que j'admire. J'aime énormément la peinture et je vais vous faire un aveu que je n'ai jamais fait. J'aurais adoré faire de la peinture, malheureusement. Je ne sais pas. Et je sais
pourquoi,
que je ne sais pas.
Pourquoi vous pouvez peut-être vous y mettre maintenant.
Non, hélas, non. Puis c'est trop tard maintenant. Mais voyez-vous, je crois que j'ai peut-être eu cet amour de la peinture parce que je vais vous dire une chose qui va peut-être vous paraître étrange aussi. J'ai appris beaucoup pour mon métier de comédienne, mon métier d'actrice. J'ai appris beaucoup de choses en lisant les lettres de Van Gogh à son frère Théo et également dans le journal de Delacroix.
Oui, c'est admirable, le journal de Delacroix.
N'est-ce pas? Et je trouve que, évidemment, toute proportion gardée, mais dans la façon de créer un rôle, de l'interpréter, dans la façon, vous savez, toutes ces espèces de petites nuances qu'il faut mettre dans une phrase pour lui donner justement de la couleur. Et c'est là un petit peu où je voulais en venir. Ça s'apparente un petit peu tout de même à faire de la peinture, faire de l'aquarelle, faire de la mosaïque, même de temps en temps si c'est un petit peu difficile. Mais vous comprenez, j'ai l'impression qu'on peut avoir des choses à se dire sur ce sujet tous les deux.
Mais il est certain que pour un peintre, c'est très important le théâtre. Moi, je crois que j'ai appris beaucoup, mais en travaillant pour le théâtre.
Vous avez fait beaucoup de décors, d'ailleurs.
En faisant les décors, parce que d'abord, on les fait par terre. Alors, on apprend à voir beaucoup plus large que si on travaille sur un chevalet, n'est-ce pas?
Oui.
Le trait est plus ample. Enfin, c'est beaucoup plus... C'est tout à fait différent.
Puis vous devez tenir compte de la lumière électrique.
Il y a la lumière électrique. Et puis, c'est un tableau...
Gigantesque,
animé avec les personnages. On fait vivre un décor comme un tableau. Et le contact avec les acteurs ou avec les danseurs, est une chose qui amène beaucoup à la peinture, je crois.
J'imagine surtout que les décors de ballet doivent être très très intéressants parce que vous pouvez laisser aller complètement votre imagination. Vous n'êtes pas forcé de faire comme parfois au théâtre simplement un salon. Là, vous pouvez laisser rêver.
Oui, c'est-à-dire ce qui est intéressant pour un peintre, c'est de faire un décor qui n'est pas réel, qui n'est pas la copie d'une chose d'un antiquaire ou d'une chose vraie. Mm-hmm. D'arriver à interpréter qu'une chaise soit une chaise, mais qu'elle soit une chaise à lui, un peu déformée, même au besoin.
Mais bien sûr.
Pas le réalisme au décor.
Non, pas du tout. Il faut toujours rêver sur les choses et laisser justement l'imagination à son rythme personnel. C'est très intéressant. Mais il y a une chose aussi que je voulais vous demander, parce que on le voit quand on voit vos toiles. Moi, je sais que je les aime beaucoup. Elles m'ont beaucoup touchée parce que je trouve qu'il y a dedans une lumière tout à fait particulière, une lumière, quelque chose de très chaud, quelque chose d'un peu mystérieux. Maintenant, je dis un peu mystérieux parce que c'est peut-être mon caractère qui m'entraîne un peu vers le mystère, et aussi parce que je sais que vous avez peint beaucoup de choses sur les villes italiennes et que depuis quelques années, surtout, vous vous destinez en quelque sorte à la Camargue.
Oui, la Camargue est un pays où je crois avoir trouvé mon équilibre. Et j'y vis une partie de l'année, je vais au moins 5 mois par an, à peu près.
Vous en avez de la chance.
Oui, je repars là-bas dès que je peux. Et c'est un pays magnifique, au point de vue lumière, vous parliez de la lumière tout à l'heure, j'ai retrouvé la même lumière méditerranéenne qu'on trouve en Italie, qu'on trouve en Espagne, et qu'on trouve en Provence, c'est la même lumière. Et c'est un pays, en plus, où, comme j'aime les chevaux, on en voit tout le temps à tous les carrefours, ils sont très beaux.
Et puis pour un peintre, enfin, c'est très important de reprendre contact avec les vérités, c'est-à-dire tout de même avec la nature.
Oui, puis c'est à l'échelle humaine, c'est un pays qui commence maintenant, évidemment, est un peu surfait. Il y a beaucoup de monde l'été, mais on peut y aller l'hiver. L'hiver, c'est admirable.
L'hiver, c'est admirable, oui.
Ah, oui, c'est admirable, l'hiver. Il y a les oiseaux, on en voit beaucoup moins l'hiver, évidemment, que...
Mais je crois que vers le mois de mars, on doit commencer à voir les flamants roses.
Ah oui, ils sont par groupe, n'est-ce pas? Ils sont dans, par exemple, l'année dernière, ils étaient tous du côté de Cacharel.
Ah oui?
Et puis alors une autre année, ils sont du côté du Vacarès. Enfin, ça dépend, n'est-ce pas? Ils changent de place.
Ah, il faudrait savoir pourquoi. Voyez-vous, moi, j'adore savoir et j'adore essayer de comprendre les choses qui paraissent mystérieuses. J'aime le mystère et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime la Camargue, parce qu'il me semblait que c'était encore un des coins tout de même assez rares dans notre pays, où on peut avoir cette espèce de mystère, et j'oserais presque dire cette sorte d'envoûtement. Est-ce que ça existe encore?
Oui,
là-bas,
sûrement, le soir, c'est, on entend les bruits, n'est-ce pas, dans la nature, on entend les oiseaux, les bruits de toute cette sauvagine, n'est-ce pas, qui
oui.
De plein air, c'est assez impressionnant. Il y a des endroits en Camargue où je n'aimerais pas habiter.
Ah oui.
Il y aurait une sorte d'angoisse.
Oui.
Là, j'habite tout près de la route, j'ai une petite cabane là, tout près de la route, à 4 km des Saintes. On voit passer les voitures, enfin, c'est une chose qui est tout de même animée.
On est rassurés,
enfin,
oui.
Mais il y a des endroits, à côté des étangs, du côté du Grand Radeau, par exemple, où c'est admirable, où il y a des brouillards qui tombent un peu comme en montagne, vous savez, choses comme ça. C'est assez angoissant. Et j'ai des camarades qui ont campé et qui ont été forcés de partir. Ils étaient très...
Ils n'étaient pas heureux.
Ils étaient inquiets.
Il y avait des choses autour d'eux, ils ne savaient pas lesquelles.
Oui, c'est une espèce de mystère, de bruit.
Et quand on ne sait pas lesquelles, on a toujours tendance à penser que celles sont mauvaises. Elles ne le sont pas toujours, d'ailleurs.
Mais au beau, surtout, ça doit... C'est encore plus angoissant du côté du Val d'Enfer,
Oui, ça j'imagine, ça je ne le connais que de jour, mais j'imagine qu'être vers 3h ou 4h du matin au Val d'Enfer...
Au clair de lune, c'est assez...
Ça doit être très angoissant.
C'est assez impressionnant, oui.
Mais c'est un pays qui est très attachant. Je trouve que... Je ne sais pas, il me semble tout de même qu'il est assez près de l'Espagne.
Oui, c'est très près de l'Espagne.
Même au point de vue couleur.
Il y a l'amour des taureaux. Et même les élevages de taureaux, c'est un petit peu la même chose que dans la Marisma.
Oui.
N'est-ce pas? Il y a les montagnes en plus en Espagne. C'est la différence de la Camargue, que c'est plat, c'est extrêmement plat. Tandis que la Marisma, à côté de Séville, il y a les montagnes dans le fond.
Oui, c'est vraiment très beau. Écoutez, je sais qu'il y a quelque temps, vous aviez fait pour l'opéra les décors de L'Amour sorcier. Voulez-vous que nous écoutions tous les deux
Mais
La
oui,
danse du
avec
feu
toi, c'est magnifique.
C'est une œuvre merveilleuse, d'une sensualité prenante, bouleversante, forte. Enfin, moi, c'est l'impression qu'elle me donne.
Thank you.
Eh bien voilà, mon heure est terminée. Je remercie la radiodiffusion Télévision Française d'avoir eu l'extrême gentillesse de mettre à ma disposition tous ses services, de m'avoir donné l'impression que je pouvais pendant une heure distraire les auditeurs. J'étais en tout cas moi très heureuse d'être avec vous et j'espère que cette heure a su vous plaire.
Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez.
Nous venons d'écouter Soyez les bienvenus. La radiodiffusion Télévision Française a mis un de ses studios à la disposition de Simone Renan. Le docteur Méry, Pierre Boulle, Denis de la Patelière et Yves Breyer lui ont prêté leur concours. Production de Marcel Dinine, présentation et réalisation d'Albert Riera.
Cette émission a été diffusée la première fois le 6 mars 1959 sur la chaîne parisienne. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.